Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Midian Noachot, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Togo, le Front citoyen Togo Debout, une organisation de la société civile, organise une manifestation de rue ce vendredi 5 octobre à Lomé, la capitale. C'est pour exiger la libération des détenus politiques tels que recommandés par la CDAO. Le 5 octobre est l'anniversaire du début du soulèvement populaire des jeunes Togolais qui étaient descendus dans les rues à cette date en 1990 pour réclamer plus de liberté et de démocratie dans le pays. On reste au Togo. L'opposant Nicodème Abia est mal en point, doit être pris en charge dans une unité sanitaire. C'est à cette conclusion qu'est parvenu le médecin soignant de M. Abia en grève de la faim depuis 15 jours. L'opposant a accepté une évacuation sanitaire vers le Ghana, mais finalement c'est dans une clinique à Lomé que Nicodème Abia a été admis hier dans la soirée. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Nicodème Abia, l'opposant togolais en grève de la faim depuis 2 semaines, n'a pas pu être évacué vers le Ghana comme l'ont souhaité ses compagnons de lutte, car son état de santé devenait critique. Transporté à bord d'une ambulance vers le Ghana, arrivé à la frontière, Nicodème Abia n'a pas pu la franchir, faute d'une autorisation du gouvernement togolais. Les formalités administratives n'ayant pas abouti, après plus de 2 heures d'attente, il a été décidé de l'interner dans une clinique à Lomé, du moins pour la nuit. En sit-in devant l'ambassade des États-Unis, puis devant celle du Ghana à Lomé, le président du parti Les Démocrates demande la libération des détenus politiques et le respect de la feuille de route de la CEDEAO. La grève de la faim, une approche assimilée à la comédie par le ministre togolais de la Sécurité, Yark Damhan. Ce dernier estime que Nicodème Abia veut forcer la main à la justice togolaise. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Mauritanie, l'opposition a dénoncé hier la non-tenue lundi de la première session de l'Assemblée nationale et le maintien en détention préventive de l'opposant Biram Oulda Abeid. Ce militant anti-esclavagiste a été élu aux législatives de septembre. Abdourahmane Dia.
La Constitution prévoit la tenue de la première session de l'Assemblée nationale le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Donc, pour le porte-parole de l'opposition, le gouvernement a violé la loi. Le parti au pouvoir dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée avec 89 sièges sur 153. L'opposition dite radicale compte une trentaine de députés, dont 14 issus du parti islamiste Tewassoul. Par ailleurs, Mohamed Ould Mouloud a dénoncé le maintien en détention préventive de Biram Da Abeid, député élu en septembre pendant qu'il était en prison. Il est toujours en instance de jugement après une plainte d'un journaliste l'accusant de calomnie, d'injures et d'incitation à la haine. Des dizaines de partisans de Biram Da Abeid, président de l'association anti-esclavagiste IRA, ont manifesté lundi devant le siège de l'Assemblée pour réclamer sa libération. Ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène.
Au Mali, reprise des classes pour l'année scolaire 2018-2019 à Mopti, dans le centre du pays. Le Premier ministre Somelo Boubey Maiga était en visite hier dans la région pour lancer les travaux de la nouvelle université de Bandiagara. Le point avec le correspondant de VOA Afrique sur place, Mamoudou Bokoum.
Cette visite du Premier ministre à Mopti se justifie par le fait que la région totalise le plus grand nombre d'écoles fermées l'année dernière. Comme le précise ici Amadou Degeni, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti.
Nous pouvons ouvrir 121 écoles, soit 45,66% des écoles fermées. Sur les 121 écoles ciblées, 45 aujourd'hui ont pu être réouvertes.
Certaines écoles sont restées fermées pour des raisons diverses. C'est le constat fait par le chef de gouvernement Soumeilou Boubey Maïga.
Il y a l'insécurité, il y a aussi les distances que les enfants doivent couvrir pour venir à l'école. Ils doivent parcourir 2 à 6 kilomètres, voire 10 kilomètres à la fin de la semaine. On va faire une évaluation pour que nous puissions leur offrir un repas sur le site de l'école. L'école est aussi confrontée au manque d'enseignants. Nous sommes en train de voir comment recruter des volontaires.
Soumeilou Boubey Maïga réfléchit à certaines mesures, notamment la création des brigades villageoises autour des écoles et la sensibilisation des parents afin d'envoyer les enfants dans les classes. Mamoudou Bokoum Mopti pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Toujours concernant l'enseignement en Afrique, au Gabon, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu lundi dans les établissements publics. Elle est retardée par des élections législatives et locales prévues samedi. Les détails avec Irénée Herman Ungbo.
Les écoles publiques de la maternelle au secondaire sont vides. L'administration est paralysée par les élections, affirme Sami Magumbu, enseignant dans le privé dont l'établissement n'a pas ouvert. Pourtant, samedi dernier, Francis Nkéan Dzigué, ministre de l'Éducation, avait assuré que les enfants reprendront le chemin de l'école dès lundi. Mais le ministre lui-même est en campagne pour briguer la députation de Bolosoville dans le nord du pays. Beaucoup d'enseignants chefs d'établissement sont eux-mêmes engagés dans ces élections, explique le syndicaliste Louis-Patrick Mombo de la CONACICED, la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale. De nombreuses écoles et lycées ont été transformés en lieux de retrait de cartes d'électeurs et deviendront des bureaux de vote pour les législatives et les locales de samedi, qui sont les premiers scrutins nationaux depuis la présidentielle de 2016.
République démocratique du Congo, une nouvelle marche d'activistes pro-démocratie de lutte pour le changement. Le mouvement citoyen Lucha dénonçant l'inertie des autorités face au massacre à répétition à Beni dans la province du Nord Kivu a été dispersé aujourd'hui à coups de gaz lacrymogène à Kisangani dans le nord-est du pays. Depuis le 2 octobre 2014, au moins 700 civils ont été tués dans la région de Beni dans des massacres attribués au groupe ougandais Allied Democratic Forces, les ADF. 15 casques bleus tanzaniens ont également été tués en décembre. Et depuis près de 15 jours, des attaques de groupes armés locaux et étrangers contre des positions de l'armée congolaise se sont multipliées dans cette région du Nord Kivu et aussi dans la province voisine de l'Ituri, dans l'est de la RDC. 4 miliciens Maimai ont d'ailleurs été tués hier dans une attaque contre une position de l'armée et 4 cadavres de personnes enlevées ont été découverts dans cette région de Beni, Nani Talani.
L'armée congolaise affirme avoir repoussé une attaque de miliciens Maimai contre une position militaire à Karuruma dans le territoire de Beni où 4 miliciens ont trouvé la mort. Par ailleurs, 4 cadavres de personnes enlevées vendredi dans une attaque attribuée aux rebelles ADF à Mokoko ont été découverts, a déclaré Donakiwana, administrateur du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Le dernier bilan est porté à 6 civils tués et des disparus. Le 22 septembre, une autre attaque attribuée au groupe ougandais ADF dans la ville de Beni avait causé la mort de 14 civils et de 4 soldats congolais. En 2017, le baromètre sécuritaire du Kivu, publié par Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo basé à New York, a recensé plus de 130 groupes armés, locaux et étrangers, toujours actifs dans l'est de la RDC.
Cameroun, l'ONU reste préoccupée par la situation dans les régions anglophones du pays et par l'impact de la violence sur la population civile. C'est ce qu'a déclaré mardi son porte-parole adjoint Farhan Kak, à quelques jours de l'élection présidentielle prévue dimanche dans le pays. Dans les deux régions anglophones du Cameroun, les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les combats entre l'armée camerounaise et les séparatistes armés sont quotidiens. Ces derniers revendiquent l'indépendance du Cameroun anglophone vis-à-vis de Yaoundé et menacent de s'en prendre à toute personne qui votera dimanche au scrutin présidentiel à un tour. 9 candidats, dont le chef de l'État, Paul Biya, s'affronteront dans les urnes pour briguer la présidence du Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu à cause des attaques persistantes des djihadistes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays et le conflit armé dans les régions anglophones. Bras de fer États-Unis rend maintenant la CIG, la Cour internationale de justice de la Haye, a ordonné à Washington ce mercredi de mettre fin aux sanctions contre l'Iran visant des biens à des fins humanitaires. Un revers pour l'administration Trump qui a toutefois récusé la compétence de la Cour dans cette affaire. L'ordonnance de la CIG est en réponse à la plainte déposée par l'Iran après la réimposition par le président Donald Trump de sanctions unilatérales sévères contre l'Iran, suspendues depuis l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, un accord dénoncé par le chef de l'exécutif américain. Les juges de la Cour, la plus haute instance judiciaire de l'ONU, ont décidé à l'unanimité que les sanctions imposées visant les biens en question constituaient une violation d'un traité d'amitié conclu en 1955 entre l'Iran et les États-Unis. Les décisions de la CIG sont contraignantes et ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure en appel, mais la Cour n'a aucun moyen de les faire appliquer.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.